Il y a une annonce à faire.
Très rapidement, donc pour la librairie sera ouverte jusqu'à après manger à midi. Donc après manger, ça sera encore ouvert, mais par contre, ça sera fermé après le débriefing qui aura lieu de 14h à 15h30. 15h. Voilà, sinon, ceux qui ont assisté hier à la soirée, toutes les lectures donc, étaient faites par Leïla, c'est tiré d'un livre de Marie-Laure Choplin qui s'appelle Un cœur sans rempart. Est disponible donc au stand où il y avait les livres de Jean Guilhem en vente. Profitez-en.
Bonjour à tous. Donc, avant d'entrer dans les questions qui méritent un réel approfondissement, il nous semblait important de pouvoir répondre, demander au Père Lawrence de répondre en premier aux questions concrètes qui se posent au sujet de la méditation et de la pratique de la méditation, parce que vous avez été plusieurs à nous poser des questions qui, effectivement, parlent de ça. Alors, pour le Père Lawrence, la première question, Lawrence, is this one. Comment faire... Alors, est-ce que Déby est là? Déby? Pour la traduction.
Ça marche, oui. Oh oui, ça marche, j'entends, oui.
Alors, je commence avec la première question qui, vous allez voir, est très pratique, mais qui est très importante. Comment faire pour ne pas tousser pendant la méditation?
Qu'est-ce que c'est, là?
What can you do so as not to cough during meditation?
Cessez de souffler. Non, c'est une question intéressante parce que nous avons parlé de la révolution contemplative, la nouvelle forme de l'Église. Et nous avons besoin d'une culture pour la prière, pour le worship, la culte. Hein?
Le culte.
So, comme enfant, quand la plupart de nous étaient enfants, quand j'étais enfant, nous avons discuté qu'est-ce que c'est le moment ultime pour aller à la messe du dimanche pour remplir votre obligation. Comprenez? Okay. So, c'est quelque chose de très important pour les Islandais, spécialement. Okay. Est-ce que avant l'évangile, ou heureusement après l'homélie, qu'est-ce que c'est le moment? Et c'est normal d'arriver à l'église en retard. Okay? Quelquefois, le prêtre était fâché, mais. Mais maintenant, dans la session de la méditation, c'est différent. Si vous arrivez en retard, vous disturbez le silence. Le silence est la prière. Le silence est sacré. Et ce n'est pas une obligation que vous devrez remplir, mais c'est un, c'est un, c'est un engagement dans le travail du silence. Ensemble, nous sommes tous responsables pour créer et pour protéger le silence. Donc c'est quelque chose de nouvel pour notre attitude aux choses religieuses. So, tousser. So, probablement, les gens qui toussent inconsciemment, sont inconscients du fait qu'ils disturbent tous les autres gens. Non, ce n'est pas. On peut avoir compassion, évidemment, et aussi on accepte que quelquefois we sneeze. What is to sneeze?
On éternue.
Ok, c'est pas possible de contrôler. Pour les bouddhistes, il y a quelques actions physiques qu'il est impossible de contrôler. And sneezing is one sneezing.
Oui, le fait d'éternuer.
Ok. On fait pas. Alors, so, la réponse, d'abord, soyez conscient du fait que vous êtes dans un corps singulier, a single body, et nous sommes unifiés par le silence, par la sensibilité pour protéger et pour approfondir le silence. Ça, c'est la première chose, être conscient. Les bouddhistes disent aux méditants nouveaux to clear the throat.
On peut tousser un petit peu. Pour...
Avant la méditation. Et de préparer physiquement. Alors, et je voudrais suggérer que nous ne portons pas les sacs dans la salle de méditation. Pourquoi il est nécessaire d'apporter le sac? Bags. Yeah? So, si vous entrez dans la salle de méditation avec rien, with nothing,
sans rien,
il est plus facile de devenir pauvre en esprit. Et si vous entrez avec rien, vous partez avec moins. c'est une question de conscience, de sensibilité pour les autres. Et si vous devrez tousser, contrôler le volume. Et s'il est impossible, vous avez une cough.
Tout. T-O-U-X.
Oh, si vous avez un tout chronique, ayez compassion pour vous-même et pour les autres et méditez en arrière ou dans une autre salle. Ce n'est pas une intolérance, mais c'est une nouvelle attitude pour les temps de la prière contemplative.
Donc une autre question sur la méditation. La méditation chrétienne, telle que proposée par la CMMC, est complémentaire aux autres formes de prière. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet?
Oui, il faut imaginer avoir une idée de la prière en général. La théologie est simple. Pour le chrétien, la prière importante n'est pas notre prière ou nos prières, mais la prière de Jésus. Saint Paul disait, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit prie en nous plus profond que les mots, les paroles. So, c'est la prière de Jésus. Nous entrons dans l'expérience de la relation entre Jésus et son Père, qui est l'Esprit. So, ça, c'est la théologie, c'est important. L'accent est sur la prière de Jésus, pas sur mon propre prière. Immédiatement, les autres formes de la prière sont révélées dans une lumière plus claire. La pétition, par exemple, n'est pas pour persuader Dieu de faire quelque chose ou de changer son to change his mind,
ou changer d'avis,
de changer son avis parce qu'il a oublié quelque chose, ou de nous traiter comme privilégiés ou favorites. So, pourquoi, c'est une question que Saint Augustin a demandé, pourquoi est-ce que nous demandons ou nous faisons des pétitions à Dieu si, selon Jésus, Dieu, le Père, comprend ce que vous, donc, ce que vous avez besoin avant de demander? Well, son réponse est, ce n'est pas de changer la vie de Dieu, d'influencer Dieu, de faire un conflit entre la volonté de Dieu et ma propre volonté, mais le but est d'approfondir, bon, le but est d'exprimer ce que nous avons besoin d'exprimer, parce que nous sommes humains. Il faut. Et deuxièmement, c'est d'approfondir notre foi, que, comme Jésus disait, ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Nous le prions dans notre Père chaque jour. So, les autres formes de la prière ont leur validité et leur valeur. Mais et la méditation ne remplace pas les autres formes de la prière. En effet, au contraire, la méditation, qui est un engagement avec la théologie fondamentale de la prière chrétienne, la méditation révèle la vraie valeur des autres formes de la prière. Et nous sommes libérés maintenant. Nous sommes libérés de l'idée que les autres formes de la prière sont obligatoires, légalistes. So, nous avons, avec l'expérience contemplative, nous sommes délivrés
oui.
De cette culpabilité, de cette culpabilité catholique ou protestante, le sens de légalisme, et nous découvrons la liberté de l'esprit, la liberté des enfants de Dieu, et aussi nous découvrons, j'oublie l'autre chose, nous découvrons le but des autres formes de prière qui nous prépare pour notre entrée dans la prière de Jésus.
Toujours basé sur la pratique. La pratique de la méditation. Que devient le diable dans la pratique méditative? La méditation nous confronte-t-elle au mal? Que devient le diable dans la pratique le diable dans la pratique méditative, la méditation nous confronte-t-elle au mal ?
Selon la tradition ancienne, il y a dans la chambre intérieure, Jésus nous réfère à la chambre intérieure. Quand vous priez, entrez la chambre intérieure. Selon la tradition, la sagesse ancienne, le diable ne connaît pas qu'est-ce qu'il arrive dans cette chambre. Okay? So, le diable is very nosy. How do you say nosy?
Il est très très curieux, le diable.
Yeah, oui, le diable est très curieux et veut entrer dans cette chambre, mais il est exclu. Non, c'est un moyen d'exprimer quelque chose d'important. Probablement pour les gens aujourd'hui, c'est plus utile d'imaginer le symbole du diable comme notre ombre, shadow, hein? Notre ombre psychologique. Ce n'est pas seulement personnel, individuel, l'ombre de l'humanité peut s'exprimer dans les politiques, dans les fantaisies, les illusions de la foule, spécialement dans les temps de crise. So, le mal a une certaine réalité. Et nous avons aussi individuellement nos ombres qui nous bloquent d'entrer dans la chambre intérieure. Et quand nous méditons, nous trouvons qu'il est possible d'entrer dans cette chambre qui est remplie avec la lumière du Christ, la lumière intérieure. C'est possible. Mais pour faire ce pèlerinage intérieur, il faut que nous, comme Jésus au désert, que nous confrontons cette ombre personnelle. Mais nous prions avec l'assurance de l'écriture, de la tradition, de notre propre expérience de plus en plus, que la lumière est plus forte que l'ombre. Il y a des gens, spécialement certaines personnes dans le spectrum du christianisme, qui sont convaincus que si nous blank out, vider.
Si on élimine de notre esprit, c'est ça?
Oui. Si nous évacuer nos esprits, our mind.
Ce qui se passe dans notre esprit, si on l'évacue.
Ok, c'est tout évacué, vacu.
Évacué.
Le diable entre. Vous avez entendu ça? Oh, c'est très commun. Les pentecostalistes, quelques charismatiques même, sont convaincus que la pauvreté de l'esprit est un danger parce que le diable peut entrer dans cet espace. C'est une peur. C'est une peur qui n'est pas relevant pour le chrétien, qui est assuré que Jésus, le Christ, a surmonté toutes les forces de l'univers négatives, toutes les puissances, le pouvoir cosmique et psychologique. So, le diable, c'est un symbole. Quelqu'un, son campagne, sont, croient que le diable est un être indépendant, une force en opposition à Dieu. Pour moi, ça semble un peu gnostique. Pour moi, c'est plus facile de peut-être vous pouvez assister ici. Il me semble que la lumière, quand la lumière est bloquée, quelque chose vient entre la source de la lumière et nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il arrive? Un ombre, oui. Si la lumière est très forte, l'ombre est plus fort aussi. C'est la corruption de, tu sais, of the best, le meilleur.
Ah, les meilleurs.
Le meilleur et le pire. Ça c'est le diable. Qu'est-ce que vous pensez du diable?
Oula.
Vous êtes expert comme.
Oh, super.
On ne m'avait jamais posé la question comme ça. Qu'est-ce que vous pensez du diable? Beaucoup de bien. Je ne m'attendais pas à cette transition-là. Les pères du désert ne cessent de parler des démons. Ils ne parlent pas du diable, enfin en tout cas dans les traductions qui sont faites, hein, bien sûr, je ne les ai pas entendues en direct, mais dans les traductions qui sont faites, ils parlent des démons. Et les démons font partie de leur vie quotidienne, telle qu'ils en parlent. Et en particulier, justement, dans leur vie méditative. Donc, je reviens à la question de départ qui était, finalement, est-ce que dans la méditation, dans l'exercice de la méditation, on est confronté au diable? Enfin, si j'ai bonne mémoire. Hein. En tout cas, les pères du désert disent clairement que oui. Le diable étant, en tout cas, pour les pères, tous ces démons intérieurs. Et on peut considérer que finalement, dans tous les démons, et c'est l'expérience du désert, alors du désert physique, mais évidemment, le fait d'entrer en désert, en pèlerinage, comme disait Laurence, où on rentre effectivement dans quelque chose de désertique, eh bien forcément, on est beaucoup plus tenté. Enfin, c'est l'expérience, justement, que liturgiquement, le carême nous rappelle quand Jésus est allé dans le désert. Voilà, c'est là qu'il est évidemment le plus tenté. Donc, il me semble que l'expérience de la méditation, à la fois, j'allais dire, sur un plan théorique, parce que justement, on va vers la lumière, comme dit Laurence, ben plus on va vers la lumière, plus il y a de chances que justement l'ombre soit là, mais aussi expérientiellement, enfin en tout cas en ce qui me concerne et ce que rapportent les pères, et je m'y retrouve complètement, voilà, je veux dire, à chaque fois que je médite, ben évidemment, c'est les démons. Alors, dans les démons, on peut considérer qu'il y a nos démons intérieurs, ceux qui viennent de nous-mêmes, certains considèrent qu'il y a aussi justement le démon, c'est-à-dire une réalité qui peut être psychique, une réalité qui peut être spirituelle. Moi, je ne suis pas théologien, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, moi, je fais l'expérience, et les Pères du désert le rapportent, évidemment, de façon beaucoup plus puissante et précise et illustrée, surtout, de façon très, très illustrée, qu'effectivement, quand on rentre dans le pèlerinage intérieur, dans ce chemin vers la lumière, vers la source de la vie, évidemment, on va trouver sur notre chemin nos démons. Voilà. Ça, c'est une expérience qui me paraît... impossible à ne pas faire. Et à ce titre, je veux remercier Laurence, parce que vous avez dit hier quelque chose, moi, qui m'a, pour le coup, vraiment beaucoup éclairé, pour le coup. C'est évident, le péché originel, c'est la distraction. Enfin, vous avez dit beaucoup de choses, mais notamment ça, le péché originel, c'est la distraction. Et on est dans quelque chose comme ça. Alors, quand on parle de distraction, ça ne fait pas très diabolique, etc. Mais si on prend un peu le recul que vous nous invitez à prendre... Il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que tous les démons, ils peuvent nous faire faire des passages à l'acte qui peuvent être dramatiques pour soi, pour l'autre, ainsi de suite. Mais c'est aussi premier degré, avant de nous faire faire des passages à l'acte, il nous distrait, quoi. Il nous distrait notre chemin. Notre chemin étant, en particulier dans la méditation, le fait de nous retirer dans cette chambre intérieure dans laquelle, effectivement, le Christ habite. Donc, pour moi, la question de départ, est-ce que dans la méditation, on se tape le diable? Oui. Après, on n'est pas obligé, et là, tous les apophtegmes des pères sont très clairs là-dessus, on n'est pas obligé, justement, de suivre le diable. Hein, il y a beaucoup, beaucoup d'apophtegmes qui racontent ça, notamment, justement, Napovtek qui dit, bon ben voilà, on avait demandé à un jeune disciple d'aller chercher de l'eau un petit peu plus loin, il devait traverser un village, donc il quitte la communauté, il va chercher l'eau, donc il traverse le village, et là, il sent une odeur de poulet rôti. Comme quoi on faisait du poulet rôti à l'époque. Ça sent très très bon. Voilà. Et là, il a deux possibilités. Enfin, c'est ce que, comme ça, évidemment, que le Abba raconte cette affaire-là. Et donc, il a deux possibilités. Soit, qu'est-ce que c'est bon. Et là, hop, je tourne à gauche. Et je vais me rapprocher de cette odeur. Et puis, peut-être, manger le poulet. Soit alors, ben, j'entends l'odeur. Et, enfin, je sens l'odeur. Et puis, malgré tout, voilà, je continue ma route pour aller chercher l'eau pour la communauté. Bon, voilà. Ben, voilà, c'est une façon, de mon point de vue, un peu illustrative de dire, voilà, ces démons qui peuvent s'inviter, j'allais dire, dans notre méditation. En réalité, dans ce chemin, avec la métaphore qu'on prend d'aller chercher l'eau pour la communauté qui vient dans la source de la vie, enfin, ainsi de suite, bon, voilà. Est-ce qu'en allant chercher ce qui est une source pour moi et pour les autres, est-ce que je me laisse embarquer par autre chose ou pas? Et les pères insistent beaucoup sur cette capacité intérieure que nous avons, au moins partiellement, de dire, voilà, peu importe, tu n'es pas responsable des pensées qui te traversent par la tête, tu n'es pas responsable de savoir si effectivement une odeur de poulet rôti te vient au naseau ou pas. Par contre, tu as une part de responsabilité dans la suite que tu donnes à est-ce que je vais courir après le poulet rôti ou pas, quoi. Donc, gare au diable.
Vous connaissez bien le diable.
Ah oui. Je le fréquente vraiment très souvent. Ouais. Il n'est jamais très loin. Il faut se méfier, il n'est jamais très loin.
Très bien. Donc, nous avons ensuite confié vos questions à Jean-Guilain Zéry, puisque certaines lui étaient adressées. Donc, Jean-Guilain, je vous laisse traiter celles que nous vous avons remises.
Alors, il y a plusieurs catégories de questions. Je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes. Alors... une question sur méditation et mantra. Alors d'abord méditation. C'est quoi la différence entre la méditation, la prière profonde, l'oraison, la méditation chrétienne? Je crois que ma réponse sera très proche, je crois, de ce que disait Laurence à l'instant, c'est-à-dire que il me semble que la méditation chrétienne, telle que vous la vivez dans la communauté, de ce que j'en comprends, de ce que j'en perçois, est quand même très proche de l'oraison, ce qu'on appelle l'oraison, c'est-à-dire ce dialogue intime, ce cœur à cœur, je crois, dans la tradition chrétienne, plus sensible à la spiritualité carmélitaine. Et je me retrouve très bien dans le type de méditation que je crois qui fait la communauté mondiale de méditation chrétienne. Ce dialogue intime, ce cœur à cœur, ouvrir toutes grandes les fenêtres de notre chambre intérieure justement au Seigneur. Voilà, c'est quelque chose de dialogue intime et silencieux. Le silence étant à la fois le langage de Dieu et le moyen par lequel, effectivement, d'une façon inconsciente et insensible, nous pouvons nous parler avec le Seigneur. Donc, pour moi, la méditation profonde, silencieuse, c'est ce que moi je mets derrière le mot d'oraison, et notamment d'oraison telle qu'on l'a décrit dans la tradition carmélitaine. Mais je rejoins complètement Laurent sur le fait que l'oraison... ça n'est pas tout de la prière. C'est une forme de prière. C'est ce dialogue intime et silencieux, ce cœur à cœur, le plus souvent mystérieux. Et il est heureux qu'il soit mystérieux, parce que sinon il resterait au niveau de notre raison, de notre intelligence, et alors on pourrait penser qu'on pourrait comprendre Dieu. En réalité, on ne peut pas comprendre Dieu avec simplement notre intelligence rationnelle. C'est ça l'intérêt de l'oraison ou de la méditation profonde. Mais il existe plein d'autres formes de prière. Voilà, pourquoi la louange, le chapelet, l'adoration du Saint-Sacrement, enfin, la lectio divina, les points de suspension. Et à cet égard, la tradition chrétienne est formidable. Parce qu'il n'y a pas une façon, justement, de prier, il y a plein de façons de prier, quoi. Et je crois que c'est important de
pour moi, je disais hier qu'il y avait un organe principal de la vie spirituelle qui est l'attention, et il y a une qualité de la vie spirituelle qui est la souplesse. Qui est la souplesse. Et quand je parle là de souplesse, ce n'est pas pour faire des figures de zen, etc. Je pense que ça, c'est, en fait, on s'en fout complètement. C'est la souplesse intérieure, justement, à être capable. C'est comme avec une personne, avec la personne avec qui on partage sa vie, avec ses amis, etc. On n'est pas toujours sur le même mode. On n'est pas toujours sur le même mode. On n'est pas toujours soit tout le temps sérieux, soit tout le temps, etc. On est capable, justement, d'avoir une palette, justement, de façon de s'exprimer, de se présenter, de s'exposer, de parler, de partager, etc. Et c'est ça que, pour moi, permettent toutes ces formes de prière qu'il y a dans la tradition chrétienne. Et pour moi, avec Dieu, finalement, c'est un petit peu pareil. C'est ça que j'appelle cette souplesse, quoi. Important de s'adresser à lui ou de se mettre à son écoute, pas simplement sur un seul mode. Même si, moi j'en suis convaincu, l'oraison, la méditation profonde est quand même, pour moi, comme je disais tout à l'heure, un peu une voie royale. Parce qu'il y a cette intimité, quoi. Et voilà, donc pour moi, l'oraison ou la méditation profonde, c'est une voie royale, mais ça ne reste jamais qu'une forme parmi d'autres, mais pour moi qui est quand même particulière, parce que c'est quand même de ce cœur à cœur que peut jaillir aussi justement cette souplesse et d'autres formes de prière. Alors, il y avait peut-être aussi l'occasion de dire, je suis pas sûr de l'avoir dit hier, mais qu'en effet, je disais que hier dans la méditation, alors cette fois-ci au sens aconfessionnel, méditation contemporaine, hein, méditation au sens où on l'entend de pleine conscience, etc., ça mobilisait donc le corps et le psychisme, hein, c'est psychocorporel. La prière, quelle qu'en soit sa forme, elle mobilise en revanche la vie de l'esprit. En fait, elle ouvre à une altérité. Et donc, il y a une intention. Quand on prie, il y a une intention. L'intention pouvant être de louer, de remercier, de bénir, d'intercéder pour d'autres, de demander pour soi, pour ses proches. Enfin, voilà, on est dans une relation. On s'ouvre à une relation. Voilà. Donc, il y a une intention, il y a une altérité. À la différence, c'est une question, c'est la suite de cette question, en tout cas du mantra, alors moi je ne suis pas un spécialiste de l'hindouisme, mais en l'occurrence, il me semble que par rapport au moins à ce qui est méditation de pleine conscience, méditation au sens moderne du terme, il n'y a pas d'ouverture à l'autre. L'objectif, c'est d'être davantage présent à soi. Et encore une fois, c'est indispensable. Je ne vois pas comment on peut être présent au Seigneur si on n'est pas présent à soi. C'est-à-dire, j'aime bien cette phrase de Marthe Robin. Ça tombe bien. Je viens de percevoir en disant qu'en fait, on est dans un foyer de... est-ce que... Non, pardon, c'est pas Marthe Robin. Mais c'est pas grave, elle sera quand même contente que j'en ai parlé d'elle. C'est Madeleine Delbrel qui dit, voilà, si vous allez au bout du monde, vous trouvez des traces de Dieu. Si vous allez au fond de vous-même, vous allez trouver Dieu lui-même. Voilà, si vous allez au bout du monde, vous allez trouver des traces de Dieu. Si vous allez au fond de vous-même, vous allez trouver Dieu lui-même. Voilà. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que dans la méditation de pleine conscience, il s'agit d'être présent à soi. En fait, il ne s'agit pas de s'ouvrir à un autre ou d'être tourné vers une altérité. Voilà. En revanche, dans la prière, on s'ouvre. On s'ouvre. Donc, ce qui qualifie pour moi la prière, c'est pas parce qu'on dit des mots cathos ou des mots chrétiens, plus exactement, qu'on prie. Jésus le dit bien dans l'Évangile, quand il reproche aux scribes et aux pharisiens, c'est pas parce que vous répétez, etc., que, etc. Voilà, je vais vous dire, moi, ce que c'est que de prier. Et il commence par notre Père, donc à s'adresser, effectivement, à celui qui l'appelle Père et qui lui donne la vie. Donc, en fait, c'est là où moi je mets, mais voilà, enfin, encore une fois, hein, dans ma petite compréhension et expérience, ce qui nous fait rentrer dans la prière, c'est pas de dire des formules. Combien même seraient-elles des formules de la tradition ? C'est de s'adresser effectivement à cet autre qui nous donne la vie. Voilà. Et on peut s'adresser à cet autre qui nous donne la vie avec nos mots à nous, nos mots. Voilà. Et souvent, quand on est dans la difficulté, ben, ce sont nos mots qui viennent. Mais on a aussi cette chance formidable de pouvoir s'appuyer sur des versets d'un psaume, sur un passage de l'Évangile, sur ce que nous dit la tradition, sur des paroles des pères, sur Maranatha, sur Kyrie Eleison, sur comme tu sais et comme tu veux. Moi, je sais que c'est une prière que j'aime beaucoup, enfin des mots que j'aime beaucoup justement dans la modalité prière du cœur. Comme tu sais et comme tu veux, comme tu sais et comme... Pour rentrer justement, comme disait Laurence, dans la volonté de Dieu. Voilà, pour rentrer dans la volonté de Dieu Et parfois, ce n'est pas simple. Parfois, on ne sait pas. Ben, je pense que la meilleure façon, c'est justement de demander à Dieu de nous aider à cela. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est-à-dire pour moi, ce qui fait qu'on passe de la dimension mentale à la dimension prière, c'est que, voilà, on se tourne vers un autre. Et on ne se tourne jamais 0% je ne suis pas tourné, 100% je suis tourné. Évidemment, c'est un chemin, c'est quelque chose. Mais ça veut dire qu'intérieurement, on prend cette orientation de se tourner vers cet autre qui nous donne la vie. Voilà. Donc, on peut dire finalement répéter des mots chrétiens, mais si ces mots chrétiens, on se les répète comme justement simplement une gymnastique mentale, voilà. Mais on peut dire aussi des mots chrétiens et vraiment les adresser comme Jésus nous y invite, qui nous tourne vers le Père. Alors, Jean-Guillaume Zéry a parlé plutôt d'attention pour la méditation. Laurence a parlé plutôt d'expérience contemplative pour la méditation, si j'ai bien compris. Oui, je pense que la personne est bien. Pouvez-vous m'aider à relier attention et contemplation, si c'est possible? Oui. Je pense que donc le muscle, pour reprendre l'expression de Laurence, l'organe de la vie spirituelle, de mon point de vue, donc, c'est l'attention. Et de fait, toutes les traditions, toutes les sagesses au monde chrétienne, c'est évident, mais les sagesses d'Orient, soit le bouddhisme ou encore plus le zen, c'est vraiment la vigilance, l'attention. Et il me semble que par rapport à cette question qui est intéressante, hein, entre attention et contemplation, c'est que l'attention permet la contemplation. L'objet de la contemplation, ce n'est pas l'attention. L'objet de la contemplation, pour le coup, ça sera le Seigneur pour faire... voilà. Mais, et donc, du coup, ça pourrait être la nature, en tant que, justement, elle est traversée par les énergies divines. Ça pourrait être une icône, ça pourrait être le Saint-Sacrement, ça pourrait être, justement, un passage de l'Évangile. Voilà. Ce qu'on contemple, finalement, c'est la vie de Dieu. Et donc, le Seigneur... Et, voilà. Mais pour ça... Justement, on a besoin de mobiliser notre attention. Sinon, on est pris par ce péché originel qu'est la distraction. Donc pour moi, en fait, l'attention permet la contemplation. Mais si je n'exerce pas, si je n'entraîne pas, c'est ça le rôle de l'ascèse, si je n'entraîne pas ce muscle, cet organe qu'est l'attention, ben alors, voilà, je pourrais vouloir contempler, mais ça sera très, très difficile, quoi. Ça sera, voilà, je partirai en permanence tout le temps suivant l'odeur du poulet rôti ou de... Je ne sais pas quoi, en fait. Donc, pour moi, l'attention, justement, permet de rentrer dans une contemplation encore plus profonde. Permet de rentrer, justement, dans ce cœur profond. Et donc, de rentrer progressivement, de plus en plus, dans le mystère de Dieu. Et donc, dans le mystère de la création. C'est pour ça que, pour les pères, la contemplation de la nature était un lieu de rencontre, aussi, avec le Seigneur. Et ce n'est pas une espèce de panthéisme. Hein, comme on pourrait le penser, il y a aussi un petit apothègme, je ne sais plus exactement mot à mot, mais en fait c'était un jeune disciple qui allait voir donc un grand abat réputé, etc., et qui s'était appauvri de tout, et y compris même des Écritures saintes, de la Bible. Et donc le jeune disciple m'a dit Mais Abba, comment fais-tu, tu, même de la Bible, comment fais-tu pour prier Dieu, puisque même de la Bible, tu t'es dépossédé? Et il lui dit, mais j'ai le livre de Dieu sous mes yeux. C'est extraordinaire. J'ai le livre de Dieu sous mes yeux. Voilà. Et c'est la nature, enfin en l'occurrence, hein, bien sûr, il vivait dans le désert. J'ai le livre de Dieu sous les yeux, il me suffit de le contempler. C'est extraordinaire. Donc tout ça pour dire qu'en même temps, voilà, notre attention... C'est pas qu'une question de performance, de durée, de etc. C'est une question que ça nous permet surtout de développer notre acuité, pour rentrer justement par l'exercice de la contemplation dans le mystère de Dieu. Vous connaissez bien la contemplation?
Oui, oui, oui. De temps en temps. Rowan Williams, l'archevêque de Canterbury, ancien, quelqu'un l'a demandé une fois, combien de temps est-ce que vous priez par jour? Et il répondit, peut-être une minute. Ils sont étonnés, mais il a expliqué. Mais il prend peut-être une heure d'arriver à ce moment, cette minute. C'est une bonne perception parce que, selon Sainte Thérèse d'Avila, tout ce que nous pouvons faire dans notre prière est de nous préparer pour le don de la prière et aussi pour la contemplation. La contemplation, dans notre tradition, est toujours un don, une grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer ou compter, to earn,
à gagner.
C'est un don. Les pères du désert, quelquefois, disent prier à Dieu pour le don de la prière. Les définitions de ces différents thèmes, l'oraison, la prière, la méditation, la contemplation, sont très divers parce que, à travers les siècles, le même thème a été utilisé avec des sens très différents. La contemplation, par exemple, est différente pour Sainte Thérèse ou Saint Jean de la Croix que pour Saint Ignace. Saint Ignace. Okay. So, il faut que nous précisions les thèmes, mais il est impossible de définir aussi. Selon Theresa May, Brexit is Brexit. Ce n'est pas très utile. Et si nous essayons de définir quelque chose qui n'est pas vrai, vous arrivez à un désastre, une confusion. Alors, on peut dire brièvement que la méditation, dans le sens que nous utilisons le thème avec le mantra, avec la tradition de Jean Cassien, dans la conférence 10, dans la méditation, nous faisons le travail intérieur nécessaire pour recevoir le don de la contemplation. Il y a quelque chose, et en effet, c'est une compréhension radicale et difficile pour comprendre. Mais c'est lié à une autre révélation du désert dans la parole des pères du désert, que le moine qui sait qu'il prie ne prie pas. Le moine qui ne sait pas qu'il prie, prie vraiment. Vraiment. Dans la pratique de la méditation, le lien avec cette perception est le mantra. Parce que, selon la même tradition de Jean Cassien ou le nuage d'inconnaissance et beaucoup des autres révélations, des autres témoins, et aussi l'hésychasme de l'Église orientale, nous disons le mantra fidèlement, continuellement, avec attention. Nous retenons au mantra quand nous sommes distraits et nous ne choisissons pas le moment d'arrêter à dire le mantra. Mais ce n'est pas quelque chose de mécanique parce que nous sommes sur un pèlerinage. Comme si nous acceptons cette discipline, cette orientation, nous acceptons Vous êtes libre de l'accepter ou non. Ce n'est pas le seul chemin. Mais si vous acceptez cet enseignement traditionnel, on commence par répéter le mantra d'abord avec beaucoup de distractions, dans un sens de découragement, découragement, mais avec l'assistance de nos amis, nous continuons ou nous recommençons continuellement et graduellement, dans une manière subtile, le mantra descend de notre mental à notre cœur. Et dans ce processus, nous disons le mantra plus subtilement, plus légèrement. Nous commençons par à dire le mantra avec beaucoup d'interruptions. Graduellement, nous arrivons à sonner le mantra avec moins d'efforts. Mais c'est toujours un acte de foi, d'attention. La troisième étape est quand nous écoutons au mantra. Et à ce moment, les distractions sont plus en arrière, in the background. Et puis, quelquefois, nous pouvons nous trouver surpris, nous sommes surpris. Ah, je n'ai pas les pensées. Le ciel de mon esprit est absolument clair. Il n'y a pas de nuages. Ce n'est pas nécessaire de répéter le mantra maintenant. Parce que je suis arrivé. Je n'ai pas les pensées. Mais la pensée que je n'ai pas les pensées est une pensée. Ça, c'est le diable. À cette étape, dans cette position, cet moment, nous sommes invités de continuer. Maintenant, très doucement, très légèrement, très subtilement, mais fidèlement, aux fins. Et dans la grâce de Dieu, au moment droit, peut-être nous sommes menés dans un moment, ce n'est pas une expérience, parce que l'idée de l'expérience est difficile à comprendre. Une expérience est quelque chose duquel nous sommes conscients. Nous observons une expérience, ou nous rappelons une expérience. Une expérience, dans ce sens, est quelque chose, c'est un objet de notre conscience. Mais si nous parlons de l'expérience de Dieu, nous utilisons le mot expérience dans une manière très différente que le sens dans lequel nous parlons d'expérience de cette conférence ou l'expérience d'un grand repas. Alors, dans la grâce, nous pouvons être menés dans une expérience du silence absolu, silence profond. Il est impossible, dans cette expérience, qui n'est pas une expérience, nous, how do you say, I mean, we, uh, I don't know. I can't say anything. So nous ne pouvons pas observer ou décrire cette étape. So la méditation, on peut dire la méditation, nous méditons pour préparer pas étape pour le don de la contemplation.
Semble-t-il assez proche. Voilà, la mode actuelle est à la méditation qui mobilise le corps et le psychisme, et il manque la spiritualité. Comment pensez-vous que cette dimension pourra venir? Viendra-t-elle? Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais comment pensez-vous que cette dimension pourra venir? Ben, grâce à vous. Enfin, c'est-à-dire, enfin, voilà. Bon, il n'y a pas d'autre réponse. Et dans ce sens, je pense que. Laurence parlait hier de christianisme contemplatif. Ça faisait écho, moi, à ce qu'on entend beaucoup pour décrire le christianisme là, de ces deux, trois derniers siècles, du christianisme social, ou de certaines sensibilités du christianisme aujourd'hui de France, christianisme social. Pour moi, voilà, on voit combien on a besoin de dire, finalement, des évidences. C'est-à-dire, est-ce que le christianisme peut-il être autre chose que social et autre chose que contemplatif? En réalité, quand on se pose un peu, c'est juste impossible. Enfin, le christianisme, il est par essence même, il est contemplatif et social. Et voilà, avec ses allers-retours, qui du social nous ramène à essayer du contemplatif, de la contemplation qui nous ramène à l'action. Évidemment, on voit bien que sur ces derniers siècles, la polarité du christianisme a été sociale. Évidemment, il n'y a pas de sujet sur le fait qu'il faut qu'elle reste parce que le christianisme ne peut pas être pas social. Enfin, ça n'a aucun sens. Puisque par essence, encore une fois, il est tourné vers l'autre. Voilà. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'il soit contemplatif. Donc, à la question de comment pensez-vous que cette dimension pourra venir, mais grâce à vous. Et donc là, en l'occurrence, ce qui est en train de se passer, cette révolution de la vie intérieure, il y a une dimension pastorale et une dimension missionnaire. Et ce sont ceux qui font cette expérience, justement, de la vie intérieure chrétienne, que vous faites avec d'autres, pas le monopole, personne n'a le monopole de la vie intérieure, mais vous en faites une expérience quand même particulière, consciente, explicite, travaillée, assumée. Voilà. Vous êtes, de mon point de vue, en position de mission, en position pastorale. Alors évidemment, dans vos familles, dans vos paroisses, dans vos communautés, là où vous êtes, sur le travail, enfin j'en sais rien moi, enfin dans votre vie quoi. Et c'est comme ça que l'évangile se transmet. Et c'est comme ça qu'il s'est toujours transmis. Voilà. Il y a besoin de gens qui parlent à la télé, dans le micro, qui sont papes, qui sont évêques, tout ça. Enfin, dans la vraie vie, le christianisme, et aujourd'hui, justement, le fait que nos contemporains qui se tournent vers le Christ, ils se tournent vers le Christ parce qu'il y a des gens dans leur entourage, en a qui leur en ont parlé, qui ont témoigné, qui ont donné envie, qui ont donné piste, qui ont ouvert des postes, enfin, etc. Voilà. Donc c'est vous aujourd'hui, de mon point de vue, ceux qui font une expérience de la vie intérieure chrétienne ont une responsabilité missionnaire et pastorale. Je vous mets la pression, hein. J'en suis bien conscient. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Si on est appelé par le Christ à vivre quelque chose de cette nature-là, c'est jamais que pour soi. Ça, il faut le savoir avec le bon Dieu. C'est jamais que pour soi. Au début, on se dit, bah tiens, voilà. Bon. Mais en fait, non, c'est jamais que pour soi. Et donc, oui, vous avez une responsabilité, de mon point de vue, missionnaire et pastorale. Et en effet, comment est-ce qu'on va passer d'une méditation, justement, non spirituelle chrétienne à la suite? Ben, je ne sais pas. Ben, moi, je regarderai ce que vous aurez fait. Voilà. Mais moi aussi, hein, je me mets là-dedans, bien sûr. Hein, vous l'aurez senti. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'évangélisation. Alors, la nouvelle évangélisation, on en parle moins. On en parlait beaucoup il y a 15 ans. Maintenant, on en parle un petit peu moins, la nouvelle évangélisation. Mais peu importe qu'elle soit nouvelle, pas nouvelle, etc. La question, et ça revient aussi, je crois, une question qui était là, c'est par rapport à... C'est qu'il me semble que ce nouveau christianisme-là dont on parlait, cette transition, pour moi, ça sera effectivement un christianisme qui embarquera et qui fera des propositions concrètes et qui révélera à nos contemporains, leur vie intérieure comme effectivement un lieu de rencontre avec celui qui leur donne la vie. Et ça ne va pas être dans des livres, ça ne va pas être des beaux sermons, ça va être des personnes qui le vivent, qui vont pouvoir en témoigner au sens fort du terme, qui vont pouvoir le partager, qui vont pouvoir chacun là où il est, avec son expérience, pouvoir aussi en proposer l'expérience. Et donc là, évidemment, il y a des choses à inventer. Et encore une fois, c'est vous qui êtes les pionniers, c'est vous qui êtes là en avant-poste, en avant-garde. Donc là, il faut y aller, là. Là, il faut y aller. Pour partager ce que vous vivez. Voilà. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ? Ben, les disciples, une fois qu'ils ont, pour le coup, senti que leur cœur était tout brûlant, ben après, hop, ben voilà, ils se sont mis en chemin, ils en ont parlé autour d'eux, etc., et ainsi de suite. Et 2000 ans plus tard, on se retrouve ici, ensemble. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà.
Est-ce que peut-être Laurence pourrait compléter votre réponse, Jean-Guilain ? Parce que sur ce sujet, nous avons eu d'autres questions. Par exemple, comment peut-on agir concrètement pour initier à la méditation, notamment dans les paroisses ou ailleurs ? Donc voilà, peut-être qu'il y a une réponse vraiment méditation chrétienne à apporter à cette question.
Oui, comme la vocation chrétienne inclut la dimension de proclamer le Christ. Ce n'est pas notre responsabilité de convertir les autres, mais ça c'est la responsabilité, l'action de l'Esprit Saint. Mais c'est notre responsabilité ou notre privilège de partager les bonnes nouvelles. So, on peut voir la même chose dans cet aspect de la vocation chrétienne que nous pensons comme la méditation. À un certain point, nous reconnaissons que la méditation, l'expérience contemplative dans la vie qui est libérée par la pratique, la discipline de la méditation, que la méditation dans ce sens est un don. Et nous sommes reconnaissants que nous avons entendu et nous avons reçu ce don transformatif et de méditation qui approfondit notre foi tellement. À ce moment, un peu de temps après, nous pouvons considérer l'opportunité ou l'occasion ou la responsabilité de partager ce don avec les autres. La différence entre un don matériel et un don spirituel est que un don spirituel contient dans lui-même la capacité et la nécessité de le partager. Alors, c'est pour cette raison que la méditation se répand. Et la tradition est transmise l'un à l'autre, personnellement, avec l'assistance des conférences et des livres, des YouTube, etc., mais essentiellement l'un à l'autre. Et la transmission est approfondie et devient quelque chose de réel quand nous méditons ensemble. La méditation dans notre solitude, quand nous sommes seuls, et la méditation avec un groupe, avec une communauté actuelle, sont, as you say, two sides, deux côtés.
Il y a deux côtés, c'est deux côtés du même pièce de monnaie.
Oui, ok. So, il faut de reconnaître quand vous semblez prêt ou comme vous semblez appelé à partager ce don. Dans une manière suitable to yourself.
Une manière qui te convient à toi.
Qui convient à toi. La manière plus normale est très effective et c'est une contribution à la transformation du monde et de l'Église est de former un groupe. C'est un acte de foi. C'est un acte de générosité. Et c'est un acte qui demande un certain courage. Mais dans une communauté, on peut trouver cette foi, ce support. Vous n'êtes pas la première personne d'initier un groupe. Vous avez beaucoup des amis et des ressources pour vous assister. Mais c'est un choix personnel. Il y a des gens qui préfèrent aller à un groupe régulièrement, mais n'aiment pas d'accepter la responsabilité de diriger le groupe, animer le groupe. OK, ça c'est un choix personnel, on ne juge pas. Mais nous avons besoin des personnes qui peuvent trouver dans leur propre expérience de la croissance intérieure, dans la pratique de la méditation, cet appel. Après ça, c'est beaucoup plus facile maintenant qu'avant, parce que nous avons une expérience commune. Comment le faire? You understand? So, la forme et le moyen de transmettre cette expérience, cette sagesse, cette familiarité avec la contemplation va décider la forme ou les formes de l'Église future. Et c'est difficile à prévoir ces formes. Le moine anglais Bede Griffiths, qui était un grand prophète du dernier siècle, disait une fois qu'il était content et très heureux avec l'esprit de le Concile Vatican II, mais he disagreed.
Il n'était pas d'accord.
Il n'était pas d'accord avec une définition que dans un des documents de conciliaire, il y a l'expression concernant l'Eucharistie. La source est le sommet de l'Église. Et l'Eucharistie. What? The source and the summit. La source
et le
sommet. Sommet de l'Église, de la vie de l'Église et l'Eucharistie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Qui? Well, you vote. Well, selon lui, il n'était pas d'accord avec ça parce qu'il disait non, la source est le sommet de la vie de l'Église et l'Esprit, le Pentecôte, et la vision de béatifique. C'est l'esprit qui est le source et le sommet de la vie de l'Église. Et la différence est très importante. Parce que si nous disons que l'Eucharistie est très important, mais est essentiel. Mais si nous disons que l'Eucharistie est le sommet et la source, qui contrôle l'Eucharistie? Qui célèbre l'Eucharistie? Qui peut recevoir la communion? Qu'est-ce que c'est? So, il n'était pas anarchiste, hein? Anarchique,
anarchiste,
mais c'est une différence entre la liberté de l'esprit et la loi. Nous avons besoin de la loi aussi, des structures, des règles, mais l'esprit transcende tout cela. So, une église contemplative est une église qui est consciente, les gens qui sont conscients de la liberté de l'esprit dans toutes les activités, dans toutes les facettes de la vie de l'église. Et ça c'est ce que je comprends par l'église contemplative.
Alors, comme le temps passe vite, hein, il nous reste quelques minutes, et donc je vous laisse peut-être choisir une question à traiter, hein, en dernier lieu, peut-être ensemble. Jean-Guilhem et Lorenz.
Est-ce qu'il y a une question que vous voulez choisir pour...
Brèvement. La différence entre renaissance et résurrection. Si vous lisez le livre, le Dalai Lama parle de Jésus, traduit par Dominique Leblanche, il y a une section où le Dalai Lama fait ce commentaire sur le récit de la résurrection. C'est très intéressant, de perspective bouddhiste. Et il dit... que la résurrection n'est pas une réincarnation, ce n'est pas une renaissance dans ce sens, et ce n'est pas une ressuscitation. C'est quelque chose d'unique. Je recommande... Vous lisez cette perspective bouddhiste sur la résurrection. C'est très, très intéressant. Suite récente et nombreuses révélations sur le comportement de prêtres, comment voyez-vous le devenir de l'Église et le rôle des prêtres? C'est une crise profonde et terrible, mais c'est une transition. C'est une transition à une nouvelle forme de priesthood, sacerdoce, priesthood.
Oui, sacerdoce.
Une nouvelle forme de prêtres. Évidemment, nous devrons avoir pour les prêtres diocésains une célibat volontaire.
Ou célibat.
Non, célibate. Oui, c'est ça. Il y a une histoire que quelqu'un a découvert un document dans les archives du Vatican. Il est très, très frappé, très enthousiaste. Il vient au pape. J'ai découvert quelque chose qui transforme... I have to say this in English, I'm sorry. Qui transforme... l'Église. Nous avons fait une erreur. J'ai lu dans les documents le plus ancien des Écritures, c'est une erreur d'un scribe.
Celui qui le faisait.
Une erreur typographique. Ce n'est pas célibat, mais célébrer. Et ouais. Comme ça? Not celibate, but celebrate. Anyway, so, un célibat volontaire, éventuellement, l'ordination des femmes, comme dans l'Église orientale, les prêtres qui travaillent dans les paroisses sont, il est obligatoire à être marié. Et si vous semblez, pour aucune raison, de rester célibat ou non marié, vous devenez moine. C'est très logique. Et éventuellement, mais à ce moment, nous sommes en face d'une crise de la formation des prêtres. Nous prions pour les vocations, mais je ne prie pas pour les vocations pour l'ancienne forme de l'Église, mais une nouvelle forme une nouvelle forme s'arrive déjà, mais c'est un moment de la douleur et de la honte, mais et c'est une humiliation pour l'Église, mais c'est un moment de la vérité aussi. Okay.
Il nous reste une minute, c'est ça? D'accord. Comme il reste encore 8 questions, ce sera facile. Non, mais du coup, peut-être juste sur ce point, parce que c'est quand même une période douloureuse. Enfin, je pense... douloureuse pour ceux qui sont attachés à l'Évangile, à l'Église. Moi, juste 2 points, c'est qu'on parle beaucoup du cléricalisme. Je parle comme laïque. Je pense que le cléricalisme est beaucoup dans la tête de beaucoup de laïcs. C'est-à-dire que, pas de tous, bien sûr, et peut-être de personnes ici, mais il me semble qu'il y a quand même beaucoup de laïcs qui ont encore et qui entretiennent une vision du prêtre qui, de mon point de vue, est d'un autre siècle, les met en échec et infantilise les laïcs. Voilà. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas de tous les laïcs, etc. Mais ça n'aide pas. Il faut bien voir que, en tout cas, c'est une question, je pense, à se poser. Voilà, moi, comme laïc, quelle représentation j'ai du prêtre? Qu'est-ce que je projette sur lui? Et que je pense qu'il y a des représentations qui infantilisent les laïcs et qui conduisent à coup sûr à l'échec les prêtres. Parce que, finalement, on a, de mon point de vue, parfois... un rapport un peu magique au prêtre, magique au sens finalement comme un sorcier, comme quelqu'un qui est au-dessus, comme quelqu'un qui est un héros. Et je pense que faire des prêtres des héros, je pense que c'est, si on veut les aider, mais alors le pire des services qu'on peut leur rendre. Quand j'entends parfois des laïcs, des amis, des gens autour de moi qui disent « Oh là, c'est formidable quand même, il devient prêtre, c'est quand même incroyable, quel courage, c'est vraiment... » mais bah ouais, enfin, ou pas quoi. Enfin, je vois pas en quoi un père de famille ou une mère de famille qui va être devoir assumer sa vie conjugale, qui est pas très très simple quand même aujourd'hui, plus un boulot qu'il peut peut-être perdre, il va quand même falloir qu'il en retrouve, etc. Il pourra pas se prendre une année sabbatique tous les 7 ans, il faudra quand même qu'il fasse manger sa famille, etc., qu'il se loge, etc. Je vois pas en quoi c'est moins héroïque. Voilà. Je pense que cette héroïsation du prêtre aujourd'hui, du prêtre diocésain, parce que, comme l'a dit Laurent, je pense que c'est surtout sur le prêtre diocésain qu'il y a quand même pour moi des interrogations, me semble être le pire des services qu'on peut leur rendre. Voilà. Donc, tout ça pour dire que cette affaire du cléricalisme, elle repose peut-être sur certains prêtres qui sont très contents, qu'on les appelle monsieur l'abbé, etc. Très bien, ok. Enfin, de ce que moi je vois, en tout cas dans l'Église de France et de ce que je connais, je pense qu'elle est aussi beaucoup du côté de la représentation que les laïcs ont là-dessus. Et la deuxième chose, il y aurait d'autres éléments, mais la deuxième chose, c'est justement quant à la vocation. Mais c'est le signe de ça, c'est-à-dire qu'il faut prier pour les vocations. Dans l'Église de France, prier pour les vocations, c'est prier bien sûr pour les vocations de saints prêtres. Voilà. On se demande si Vatican II, finalement, a eu lieu ou pas, quoi. Jean-Paul II...
disait lui-même, le 21e siècle sera le siècle des laïcs. Et pourtant, on ne peut pas le taxer d'être anti-prêtre, célibat des prêtres, les prêtres, c'est que des hommes, etc. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut bien voir que le sujet, ce n'est pas les vocations de prêtres. Le sujet, c'est où est-ce que le Seigneur appelle aujourd'hui ? On ne va pas prier pour la réponse que je veux. Ça, ce n'est pas chrétien, c'est magique. Je prie parce que je veux des prêtres. Non, moi, je prie le Seigneur pour qu'il appelle. Qu'il appelle, effectivement, des hommes, des femmes, selon sa volonté. Voilà. Et c'est ça la prière à faire pour moi, la prière chrétienne. Ce n'est pas pour qu'on ait des saints prêtres qui viennent guider leur peuple. C'est Seigneur, appelle. Appelle des serviteurs au service, justement, de l'évangile de la vie. Voilà. Et là, ça change tout. Parce que ça veut dire que l'Église, de mon point de vue, gagnerait à mettre en valeur toutes les autres formes d'appel. Quand je vois, en tout cas, dans un certain nombre de paroisses, où le seul appel dont il est rendu compte, c'est justement l'appel à l'ordination de prêtre le troisième dimanche ou samedi du mois de juin, et que c'est le grand rendez-vous du diocèse, etc. Mais alors, les femmes qui rentrent au Carmel, les hommes qui rentrent chez les bénédictins, les laïcs qui se consacrent pour une vie dans le monde, les couples qui vont quitter leur travail pour partir en mission pendant 3 ans, ils deviennent quoi ? Ils ne sont pas appelés par le Seigneur ? On ne doit pas prier pour eux ? On ne doit pas rendre grâce au Seigneur pour cela ? Voilà. Donc, au moins, c'est deux choses pour moi. Et donc, là aussi, ça renvoie, je pense, pour moi, à une réorientation de la prière. Ce qui compte, ce n'est pas la vocation des prêtres, c'est Dieu appelle des serviteurs et des servitrices, des servantes, justement, au travail de l'Évangile.
Alors, je crois qu'on va conclure sur cet appel. Jean-Guilhem doit nous quitter avant le déjeuner, mais nous continuons donc cet après-midi, et l'idée c'est qu'on se retrouve de façon précise à 14h15 pour qu'on puisse être dans les temps pour ceux qui ensuite ont des trains, des longs trajets à faire. Jean-Guilhem, un grand merci. Ça a été un week-end.
Merci à vous, merci de votre accueil surtout. Et puis j'étais heureux de faire.
J'ai pas fini, je vais vous interrompre, mais j'ai pas
fini. Bon, alors voilà. Alors, on veut dire quelque chose, voilà.
Oui, parce qu'il faut qu'on vous dise quand même, parce que c'est la 10e rencontre, donc à chaque fois, nous, c'est un challenge de trouver un intervenant qui va pouvoir bien s'entendre avec Laurence, qui est dans la.
Ça n'a pas l'air évident de trouver des gens qui s'entendent avec lui.
Et puis chaque année, on nous dit oui, vraiment l'intervenant était super, donc ça nous met la pression.
Praises you, she insults me.
Et je voulais dire que voilà, pour la 10e année, je pense qu'on a vraiment trouvé un super, super intervenant. Je ne sais pas bien ce qu'on va faire l'année prochaine. Mais je trouve fascinant, parce que c'est important en fait. Même si on avait donné des informations de Laurence à Jean-Guilhem et de Jean-Guilhem à Laurence, mais pour moi, c'était fascinant de voir à quel point les deux approches ont été complémentaires, se sont enrichies l'une l'autre en parallèle. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très fort. Donc, un grand merci pour ça à vous deux. Et donc, Jean-Guilhem, en signe, en symbole de notre remerciement, à la fois des nourritures spirituelles, mais pas que.
Mais des autres aussi. Ouais.
Voilà, parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, dans la communauté, on est effectivement des gens qui aimons réfléchir, méditer ensemble, mais on aime aussi beaucoup la vie avec un grand V et tout ce que les bonnes choses qu'elle nous apporte. Donc c'est du vin jaune du Jura. Voilà. C'est bien.
Écoutez, mais je peux parler là.
Vous pouvez parler, je vous embrasse et je vous tais.
Merci.
Merci.
Oui, enfin, ça sera bref. Je pense que vous m'avez déjà suffisamment entendu là depuis vendredi soir. Non, mais vous remercier, vous dire que j'ai passé aussi un, enfin aussi, en tout cas moi, j'ai passé un très, enfin, de très belles journées, surtout nourrissantes. Voilà, très nourrissantes. Moi, je repars aussi renouvelé. J'en ai évidemment, j'ai pu méditer aussi, mais méditer aussi avec vous, mieux connaître le charisme propre de la communauté mondiale de méditation chrétienne. Voilà, j'en suis heureux. Nourri, je repars, j'allais dire aussi avec vous tous, dans mon cœur, dans ma prière. Et ben je vais prier pour que vous soyez missionnaires, pasteurs, chacun avec son charisme, de ce dont vous faites l'expérience. Et priez aussi pour moi, s'il vous plaît.
Et nous rencontrons de nouveau à Bombo.
Oui, très bien.
Oui.
Très, très bien. Je viens de l'apprendre, là, mais je suis OK, moi, je suis OK.
Marie, peut-être un mot sur les ateliers, non, pour qu'on...